RCF.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes avec les neveux de René, Chemin de pensée, une émission dédiée à l'étude des textes de la philosophie. Vous êtes en compagnie d'Anne Bonneau, de Sylvain Contasso-Vivier, de Nicolas Lemoine et de moi-même, Nazim Fattès. Nous sommes donc en train de cheminer avec Albert Camus, avec des questions somme toute difficiles, des questions de notre temps, et nous travaillons sur une œuvre qui est La Chute. Alors cette œuvre nous donne beaucoup de fils à retordre et beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons méditer. Nous ne prétendons pas faire le tour de toutes les questions qui sont riches et foisonnantes, mais nous donnons des pistes de lecture aux auditeurs en espérant que ça donnera envie à certains d'aller lire ou relire ce récit. Alors on va donner la parole à Nicolas Lemoine qui va nous faire le résumé, un bref résumé de l'épisode précédent.
Oui, alors la dernière fois donc nous avions repris la question de la conception, d'une certaine conception de la liberté qu'avait Camus, ce qui est une conception assez commune, à savoir la liberté vue comme une absence de contrainte, une absence de modèle, une absence de maître.
Alors on rappelle que Clément, c'est le narrateur du récit La Chute, qui apparaît presque comme un monologue.
C'est ça.
Oui.
Et puis, partant donc de cette interrogation, donc, nous avions quelque peu dévié sur la question littérature et philosophie. Comment entrer ou comment présenter le mieux un questionnement philosophique, soit par un traité, soit par une œuvre littéraire. Et puis donc nous avions terminé l'émission par la lecture d'un épisode que narre Clémence et qui était le début de sa chute, le début de sa perte d'innocence, à savoir l'épisode donc de la moto. Donc il essaye de convaincre un motard qui a calé un feu rouge de passer au vert, de se mettre sur le côté pour laisser passer un fil de voiture. Mais ça se passe mal, il s'apprête à le frapper, mais quelqu'un d'autre s'interpose et se fait plus Clémence que Clémence, puisqu'il vient au secours de la veuve de l'orphelin, en l'occurrence du motard coincé sur sa moto, et traite Clémence de pauvre type finalement, qui repart penaud dans sa voiture sans avoir pu dominer ni le motard ni le mousquetaire qui est venu au secours du motard de nulle part et par derrière.
Alors, mes chers neveux et chères nièces qui êtes autour de la table, chères auditrices, chers auditeurs, je voudrais qu'on aborde cette fois-ci la question vraiment. Souvent, on rappelle que Camus est le philosophe de l'absurde. Alors, on a eu déjà l'occasion de débattre est-ce que l'appellation philosophe convient ou non à Camus, sachant que lui-même se définissait pas comme un philosophe, mais d'abord comme un artiste, ce qui bien sûr ne signifie absolument pas que la pensée et le travail littéraire d'Albert Camus soient exempts de philosophie, bien au contraire. Mais on va pas réaborder ce thème-là. Mais je voudrais vous faire écouter un entretien que j'ai eu avec mon ancien professeur de philosophie, François Vezin, à l'occasion d'un colloque qui était consacré Albert Camus, qui se tenait à Angers l'an dernier. Et le titre de ce colloque, c'était Albert Camus ou le vertige du sacré. Et il avait fait une intervention sur le thème de la Grèce de l'ombre. Et puis le lendemain de ce colloque, nous avions été nous promener à Angers, voir les magnifiques tapisseries de Jean Lursa, qui sont sur l'autre côté de la Maine, à Angers. Puis je me rappelle qu'on avait cherché un restaurant. Et au bout d'un moment, on ne trouvait pas de restaurant. On a fini par trouver un très bel endroit, un restaurant marocain. Et j'ai pris le micro qui m'avait été prêté par RCF, que je remercie. Et je l'ai interrogé sur Albert Camus. Alors là, je vais passer un petit extrait. Alors vous allez entendre qu'il y a de la musique en bruit de fond, c'est parce qu'on est dans un restaurant. Et puis à la fin, il y a une petite fille qui rentre et qui... mais c'est juste au moment où on termine l'entretien. Voilà. Alors on va demander à Dominique Herpelding de lancer cet enregistrement.
en tant que professeur de philosophie, je pense que souvent vous avez indiqué aux étudiants ce quatrième de couverture de la collection Espoir, dans lequel il a publié ses propres essais, je pense, mais aussi les essais de Simone Veil, tels que L'Enracinement. Et ce quatrième de couverture commence par cette phrase qui est « Nous sommes dans le nihilisme ». Alors, je voudrais peut-être que vous essayiez de donner, pas une explication complète, parce que le problème est beaucoup, beaucoup trop ardu pour être expliqué en 2 ou 3 minutes, mais est-ce que vous pouvez nous donner des pistes de lecture ? Comment aborder cette question du nihilisme ? Quels sont les textes à lire ? Qu'entend Camus par le nihilisme et comment il le perçoit ?
Oui, alors, cette phrase de Camus, nous sommes dans le nihilisme, elle sort directement de sa lecture assidue de Nietzsche. Donc le nihilisme, c'est un concept fondamental de la philosophie de Nietzsche, et donc cette phrase n'est vraiment compréhensible que si l'on se réfère à Nietzsche. Donc il y a toute une pensée du nihilisme chez Nietzsche, et elle a énormément concerné, intéressé Camus, et Camus, avec l'honnêteté, la modestie qu'il caractérisait, n'a jamais prétendu avoir découvert cette notion, c'est plutôt attaché à essayer de la comprendre en lisant régulièrement des œuvres de Nietzsche, et il a fait complètement sien le problème nietzschéen du nihilisme. Et c'est, oui, cette prière d'insérer de la collection Espoir m'impressionne beaucoup, et c'est un texte que je cite souvent et dont je recommande une lecture très attentive.
Et ce que vous me disiez précédemment en conversation privée, c'est qu'il ne faut pas entendre nihilisme au degré zéro de ce terme, c'est-à-dire celui qui détruit tout. Il y a un nihilisme qui est dans notre temps et qu'il s'agit de comprendre, de mesurer, de voir. Et il y a tout un travail philosophique à faire pour comprendre quel est le visage de ce nihilisme.
Oui, bon, il y a un usage banal du mot nihilisme. Donc le nihilisme, c'est celui qui annihile tout, donc qui casse tout, qui nie tout. Alors ça n'est pas cette notion simpliste du nihilisme qui intéresse Camus ou dont parle Nietzsche. Donc chez Nietzsche, le concept de Nietzsche est très élaboré. Et donc il demande une enquête approfondie. Alors, en gros, bon, il y a une note de Nietzsche dans les papiers de lui qu'on a retrouvés, qu'on a édités, où il dit « Qu'est-ce que le nihilisme quand les valeurs les plus élevées se dévalorisent ?» Donc c'est ça le processus en cours dans ce qu'on a appelé la civilisation européenne, que Nietzsche voit sous le nom de nihilisme. Donc c'est un processus. C'est pas une doctrine, c'est quelque chose qui a cours, qui se passe en ce moment même avec nous et sous nos yeux, et qu'il s'agit de discerner face auquel il faut essayer de réagir.
D'accord, ben merci beaucoup François Vezin pour cet entretien, et puis j'espère qu'on aura d'autres occasions ultérieures de continuer et d'éclaircir toutes ces questions. Ben merci en tout cas pour toutes les pistes que vous nous avez données.
Merci. Alors on entend la petite fille qui rentre dans le restaurant et sa maman qui lui dit « chut » en le voyant avec le micro.
C'est la chute.
C'est la suite. Voilà. Alors, question non préparée, question ouverte à l'Assemblée ici. Est-ce que vous voyez des liens entre ce qui vient d'être dit et ce qui est dit dans la chute ? À brûle pour point. Anne.
Enfin, c'est pas direct quand même. Peut-être la question de l'individualisme forcené de Jean-Baptiste Clamence, surtout.
Bien sûr. Et le manque de valeur, en fait, hein, le manque de repères et de valeurs qu'on ne puisse pas remettre en cause, en fait. Et parce que Clamence, finalement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que. Il n'y a plus de valeur auquel se rattacher, en fait.
Je pense qu'il y a cette question-là. Et donc, nous avions vu la question, l'épisode de la moto, comme quoi ça débouchait sur le ressentiment, c'est-à-dire si je me suis fait avoir ou si je me suis pris des coups, il faudrait que je puisse rendre ces coups.
Pour que je puisse me venger, pour dominer.
Voilà.
Je n'ai plus été capable de dominer, je suis descendu de mon piédestal, oui. Je suis devenu un commun des mortels parce que les barrières qui me protégeaient habituellement étaient abolies, et du coup je veux me venger, Et c'est le texte qui vient après l'épisode de la moto, là. La vérité est que tout homme intelligent, vous le savez bien, rêve d'être un gangster et de régner sur la société par la seule violence. Comme ce n'est pas aussi facile que peut le faire croire la lecture des romans spécialisés, on s'en remet généralement à la politique et l'on court au parti le plus cruel.
Voilà, ça aussi, c'est aussi drôle, hein, la façon dont c'est amené, j'aime beaucoup. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on voit des personnes qui se tournent vers le parti le plus cruel en politique, ou des personnes qui se tournent vers le fric, vers la domination et ainsi de suite, il ne faut pas en faire une lecture seulement psychologisante de ce fait-là, mais il y a peut-être quelque chose qui révèle l'air du temps. D'accord ? Et notamment, on avait parlé aussi de la question de la liberté, peut-être.
Oui.
C'est-à-dire que dans une période où on ne cherche que la liberté, où précisément les valeurs les plus hautes se dévalorisent.
Une certaine idée de la liberté, en fait.
Qu'est-ce qui reste ? Voilà. Qu'est-ce qui reste, hormis la volonté et la volonté de volonté ? C'est-à-dire qu'il faut se donner une volonté. L'homme moderne est celui qui se donne une volonté. Et pour ça, il ne cesse de faire appel à la raison. Est-ce que vous voulez commenter ?
Je ne comprends pas ce que tu viens de dire, voilà. Peut-être pour être plus éclairé.
Merci. Ce que je veux dire, c'est que dans L'homme révolté, Camus va attirer l'attention sur le risque qu'il y a à rentrer dans des systèmes, quels qu'ils soient, des systèmes, bon, il pense au système communiste, mais il pense peut-être aussi au système capitaliste, et ainsi de suite. Ces deux systèmes qui sont emblématiques de la façon dont s'organisent les hommes du XXe siècle sont tous deux basés sur la raison. C'est-à-dire, c'est pour le bien de l'homme qu'il faut s'organiser et faire une certaine organisation de la société. Et je crois qu'il y a dans Camus la volonté de résister à ce mouvement-là, qui peut être un mouvement furieux. D'ailleurs, dans l'épisode de la moto, à la fin, il ne peut pas répondre parce que tout reprend à une très grande vitesse. Oui. Est-ce que vous voulez commenter cette chose-là ?
Ben,
ou peut-être Anne va dire qu'on on est trop en train de fumer, on est trop l'abstraction.
Non, je sais pas.
On s'éloigne un petit peu du roman, oui, mais bon, si c'est...
On s'éloigne du roman. Non, mais donc tu ne vois pas ça dans le roman. Enfin, juste que vois-tu toi dans le roman ? Enfin, dans le fond des choses, c'est ça que dans ce
oui,
roman.
Dans le fond des choses, c'était plutôt une remise en question de l'homme, de l'individu. C'était plutôt ça.
Et puis la question d'innocence aussi dont on a parlé un peu.
Oui. Et la question du bien.
Voilà.
Pourquoi faisons-nous le bien ?
Pourquoi faisons-nous le bien, c'est ça.
C'était plutôt tout ça.
Mais est-ce que la question de pourquoi faisons-nous le bien ?
Oui, non, mais c'est vrai que de pierre en pierre, on peut arriver à ça. Donc je vous laisse débattre, si vous voulez, de ça. Mais surtout que je vois qu'il y a Nicolas qui est en train de.
C'était Sylvain qui voulait.
Oui, Sylvain. Alors on va lire un passage. Oui.
C'est-à-dire que l'idée, c'est effectivement cette histoire d'innocence dont on avait un peu parlé déjà à la fin de l'émission précédente, qui est importante parce qu'au final, on s'aperçoit que l'innocence et la liberté sont vraiment très liées l'une à l'autre.
Oui.
Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, Clamence, il s'aperçoit qu'il perd cette innocence parce qu'à un moment donné, les différents éléments l'amènent à se rendre compte de ça. Quoi.
Avant de te donner la parole, Sylvain, est-ce que je peux lire parce que je l'ai
bien
là
sûr,
sous les yeux.
Bien sûr.
C'est un passage non pas de la chute, mais de l'homme révolté. Il est dit, il s'agit de savoir si l'innocence... à partir du moment où elle agit, ne peut s'empêcher de tuer.
Tout à fait, ouais.
Nous ne pouvons agir que dans le moment qui est le nôtre, parmi les hommes qui nous entourent. Nous ne saurons rien tant que nous ne saurons pas si nous avons le droit de tuer cet autre devant nous ou de consentir qu'il soit tué. Voilà, je crois que c'est ça qui fait le cœur de l'homme révolté, c'est qu'on peut très bien se sentir innocent et être des criminels, et je me demande si c'est pas notre époque à nous qui est c'est ça. Tiens, à l'heure où on parle maintenant, il y a une famine terrible en Afrique, quoi. Donc, nous ne pouvons pas nous sentir innocents.
C'est même quand on se sent innocent qu'on commet les crimes les plus épouvantables, parce qu'on ne voit pas le mal qu'on fait. Hein ? Je pense toujours à cette phrase très illustrative d'un ancien président américain, George Bush. Donc, c'était après, bien sûr, la guerre en Irak et l'Afghanistan, et il a déclaré lors d'un repas: comment se fait-il que le monde ait de la haine contre nous alors que nous sommes bons ? Voilà, devant cette phrase quelque peu affligeante, on se dit immédiatement cet homme est dangereux.
Oui. Ça illustre. Donc, moi, je vois dans cette histoire de la chute, une lecture possible, c'est celle de nous avertir face au problème de l'innocence. Alors, Sylvain, oui, tu voulais lire un extrait.
Oui. Alors, par rapport à cette innocence et le lien avec la liberté, c'est qu'effectivement, l'innocence, d'une certaine façon, c'est l'absence de choix. On est innocent tant qu'on n'a pas à choisir. À partir du moment où on peut choisir et donc on est libre de choisir, tous les choix que l'on fait peuvent nous être reprochés. Et donc on perd l'innocence. Alors, quelques éléments de Camus, d'ailleurs, enfin de la chute, hein, qui illustrent un petit peu cette vision-là, si vous voulez. Donc je peux lire un petit peu quelques mots, hein, c'est assez rapide. Donc, en philosophie comme en politique, je suis donc pour toute théorie qui refuse l'innocence à l'homme et pour toute pratique qui le traite en coupable. Vous voyez en moi, très cher, un partisan éclairé de la servitude. Sans elle, à vrai dire, il n'y a point de solution définitive. J'ai très vite compris cela. Donc voilà, il enchaîne, hein, il détaille quelques éléments. Un peu plus loin, il reprend, hein, sur le thème de la liberté. Je ne savais pas que la liberté n'est pas une récompense, ni une décoration qu'on fête dans le champagne, ni d'ailleurs un cadeau, une boîte de chatterie propre à vous donner des plaisirs de babine. Oh non, c'est une corvée. Au contraire, et une course de fond bien solitaire, bien exténuante. Et encore un peu plus loin, au bout de toute liberté, il y a une sentence. Voilà pourquoi la liberté est trop lourde à porter, surtout lorsqu'on souffre de fièvre, ou qu'on a de la peine, ou qu'on n'aime personne. Donc on voit bien là dans l'esprit de Camus, hein, toute cette difficulté finalement et le poids de la liberté en fait. La liberté, c'est quelque chose qui est difficile en fait à vivre.
D'où la tentation de la remettre à d'autres pour se débarrasser de ce poids-là.
Et on est bien loin de la liberté vue comme une absence de contrainte quand on arrive à ce moment-là du roman.
Voilà. Donc il y a un
derrière la liberté, il y a un choix et ensuite un choix.
Et la servitude enlève toute liberté justement. Hein. Juste le dernier petit bout, hein, qui est intéressant à ce niveau-là, c'est ce petit passage là, où un peu plus loin encore. L'essentiel est que tout devienne simple, comme pour l'enfant, que chaque acte soit commandé, que le bien et le mal soient désignés de façon arbitraire, donc évidente. C'est intéressant parce qu'on voit là justement l'innocence de l'enfance. On dit souvent les enfants sont innocents, mais pourquoi ils sont innocents? Parce qu'ils font pas de choix, ils ont pas de choix à faire. On leur impose des choses.
On va continuer sur ce thème après une petite pause musicale.
Alors la pause musicale, donc justement, c'est au bout de toute liberté, il y a une sentence, et la sentence donc illustrée en musique avec le Dies Irae du Requiem de Mozart, le jour de la colère.
Vous êtes avec les neveux de René sur RCF. Nous débattons de philosophie, de la chute de Camus. C'était le Dies Irae de Mozart. Et nous allons revenir sur Terre puisque Anne nous disait pendant l'intermède musical qu'on était un peu fumeux. Est-ce que Anne, tu voudrais dire ça à voix haute?
Mais non, mais bon, parler comme ça... Ben après, je peux être hors sujet. Bon, la parler comme ça de liberté, quand une chose qui n'est que mauvaise, bon...
Ah, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit que la liberté était mauvaise.
La liberté est mauvaise. Donc, il faut quand même aussi faire attention à ce qu'on dit.
On n'a pas dit que la liberté était
mauvaise. Voilà, donc je vous laissais, mais j'attendais que ça vienne.
La liberté est lourde à porter,
c'est tout. Positives sur la liberté. Elle est lourde à porter, certes. Mais bon, il faut voir aussi l'absence de liberté aussi. Donc c'est ce que ça amène.
Donc finalement, c'est ça, c'est que cette discussion nous a amené sur la tension de
se libérer, finalement, c'est jamais quelque chose de simple, de donné. Et on peut vouloir de se libérer de quelque chose pour tomber dans une servitude plus grande. En tout cas, est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Oui, c'est vrai, mais on peut pas... Enfin, à mon avis, c'est un thème beaucoup trop difficile pour en parler comme ça, là, dans ces petits mots-là, c'est pas possible.
Mais est-ce que c'est pas ça qui est Clamence ? C'est-à-dire, Clamence, oui, il refuse toutes sortes de servitudes.
Oui, mais peut-être...
Et finalement, il tombe dans une servitude plus grande, non ?
Mais qui s'est fixé lui-même. Et en même temps, il veut juger tout le monde parce que, comme il s'est jugé lui-même, eh ben, il voulait que tout le monde aussi soit coupable. Tu vois, je me demande si c'était pas aussi une manière de se libérer de sa faute en la mettant sur tous les autres.
Oui, bah, clairement, oui.
Oui, il y a un peu de ça. Hein. D'ailleurs, donc, un peu plus loin dans le texte, il le dit à un moment donné, quand nous serons tous...
Moi, j'avais pas pris ces mots très au sérieux, en fait.
Quand nous serons tous coupables, ce sera la démocratie.
J'avais pris ça, oui. Oui.
Il le dit un peu plus loin.
Alors, comment vous comprenez cette phrase curieuse ? Quand nous serons tous coupable, ce sera la démocratie. Moi, je ne l'ai pas comprise. Hein.
Je pense que d'une certaine façon, on peut le comprendre. Hein. Je ne dis pas que c'est la seule lecture possible, mais on peut le comprendre comme une forme d'égalité. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est tous coupables, il n'y en a pas qui sont forcément mieux que d'autres. Et du coup, ça remet un petit peu les choses à plat. Quoi.
D'accord.
Je pense. Hein, oui, ça peut être une façon de dire les choses.
Bah, ce que je disais, c'est que pour pouvoir être au-dessus du lot, on accuse les autres, on juge les autres. Et donc, on fait peser le poids de la faute, du mal qui existe, parce que le mal dans la société, il existe, il est évident. On fait peser le poids de la faute sur les autres, on accuse les autres. Et ça, c'est nécessairement, ça finit soit par une guerre de tous contre tous, soit, l'étape après, par une dictature. Où finalement, on dit que plutôt que de souffrir individuellement de sa faute et de la mort qui est toujours solitaire... On préfère la servitude qui est collective, comme ça tout le monde a son compte. Et en même temps.
Moi, je voudrais vous poser une question.
Alors,
je t'ai coupé la parole.
Alors que, à partir du moment où on accepte chacun sa culpabilité, si on assume la liberté dont on dispose et les conséquences que ça implique, en termes de ce que disait Sylvain, c'est-à-dire avoir un choix, c'est perdre l'innocence puisqu'on s'engage. Et donc, c'est pas une absence de contrainte. On s'engage et après, on doit se tenir à ce qu'on a choisi. C'est ça, la vraie liberté. Et donc, à partir du moment où on assume, où on arrête de considérer que la culpabilité, c'est uniquement les autres, eh ben, on peut arrêter de lancer des communiqués dans le vide et on peut reprendre le dialogue. Et s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de démocratie.
Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Surtout en période
de joute électorale.
De joute électorale.
Alors, à l'heure où nous enregistrons, nous ne connaissons pas les résultats du premier tour.
Tu avais une question ?
Oui. Moi, je voulais savoir comment vous voyez l'intervention de la duplicité. Pourquoi est-ce que Janus, c'est l'emblème de Clamence ? Est-ce que ça vous évoque quelque chose, cette histoire de duplicité ? Est-ce que c'est parce que Clamence, il n'arrive pas à assumer sa liberté ? Comment on peut comprendre cette chose-là ?
Déjà, il a dit que Janus, il regardait avant, il regardait arrière, en arrière, non
oui,
en avant,
on l'appelle
en
Janus Bifrance parce qu'effectivement, il a deux visages, un qui regarde en avant et un qui regarde en arrière.
Et lui-même, il a regardé son passé. Donc
c'est comme ça que tu... D'accord.
C'est peut-être une des manières de le voir. Hein. Il y en
ça,
a
c'est intéressant.
Mais...
Je ne l'avais pas vu comme ça. Ouais. Enfin, moi, je l'avais pris au sens premier. Et Anne, tu me disais qu'il ne faut pas prendre Clamence comme un tartuffe. C'est pas un hypocrite.
Non, parce que en fait Tartuffe, il fait sciemment le mal pour le mal, et il se moque totalement, finalement, de son propre jugement. Lui, il est mauvais dans sa tête. Hein. Et donc pour moi, Clamence, c'est beaucoup beaucoup plus complexe que Tartuffe.
Tartuffe, il fait le mal pour son bien.
Oui, mais il ne fait
pas pour le mal, mais enfin.
Oui, mais pour son bien, pas pour se juger bien.
Oui, oui, oui.
Et Tartuffe ne se juge pas. Et voilà, c'est ça.
C'est un escroc assumé.
Oui, il s'assume complètement. Donc c'est pas du tout la même chose que Clamence.
Non, je suis d'accord. Oui.
Avant de clore ce cycle, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter dont on n'a pas encore parlé, qui vous paraissent nécessaires de donner des pistes de lecture aux auditeurs qui auraient un jour peut-être rencontreré la chute ou qui décideraient d'acheter la chute ?
Bah, en lien avec le nihilisme
dont
tu as parlé, donc de cette chute des valeurs, c'est le désespoir qui hante Clamence et auquel Clamence essaye d'échapper.
Et est-ce que c'est pas le désespoir finalement ? Est-ce que c'est pas un des visages de notre temps ? Est-ce que nous, en lisant ça, on se dit pas, nous sommes dans un temps qui manque d'espoir ? Est-ce que on peut pas ressentir ça ou est-ce que on est trop dans quelque chose de nébuleux ? Anne, qu'en dis-tu ?
Non, j'ai pas l'impression qu'il faut porter des jugements aussi définitifs que ça. Je pense qu'il y a toujours des gens qui portent l'espoir. Bon, voilà. Il y a, par exemple, il y a des gens qui se battent pour la planète. Donc ça, c'est de l'espoir. Mais c'est vrai aussi qu'il y a d'autres gens qui la détruisent. Donc c'est assez complexe. Mais je pense pas qu'on puisse dire de manière définitive, on n'y a plus d'espoir. Voilà. Mais l'espoir n'est pas...
Il faut garder espoir.
Voilà, garder.
Alors, pour clore ce cycle qui est consacré à Albert Camus, enfin à la chute de Camus, mais ça ne signifie évidemment pas qu'on va s'interdire de revenir à Camus, nous y reviendrons. Je voudrais lire le quatrième de couverture, donc le prière d'insérer de la collection Espoir, dans lequel figure l'homme révolté, mais aussi les essais de Simone Veil, les poèmes de René Char, Roger Grenier, Brice Parrain. Alors, cette prière d'insérer, le quatrième couverture, dit « Nous sommes dans le nihilisme, peut-on sortir du nihilisme ?» C'est la question qu'on nous inflige. Mais nous n'en sortirons pas en faisant mine d'ignorer le mal de l'époque ou en décidant de le nier. Le seul espoir est de le nommer, au contraire, et d'en faire l'inventaire pour trouver la guérison au bout de la maladie, etc. Donc j'ai abrégé, mais vous voyez que, comme tu l'as dit Nicolas, réfléchir sur la démocratie, réfléchir sur la liberté, c'est justement notre espoir et c'est peut-être le message que voulait dire Albert Camus.
Tout à fait. Oui.
Voilà. Ouais. Merci à toutes et à toutes. Merci à Dominique Herpelding pour la technique. Et puis rendez-vous donc la semaine prochaine pour continuer à cheminer avec les Neveux de René.
Merci.